Quant au témoin X, en réalité, une dizaine de témoins, dont la moitié n'a été entendue qu'une seule fois, et encore, il a été vite été question de les décrédibiliser. On les a fait interroger par les flics hostiles qui déclaraient ne rien croire de ce qu'elles disaient. Puis, en ce qui concerne X1 et ses 17 auditions, on a procédé à pas moins de 3 relectures destinées à vider le témoignage de tout sens, quitte à faire de mauvaises traductions et à mentir, alors que les enquêtes au sujet de ces éléments avaient été stoppées net. D'ailleurs, celui qui a été en charge de cette relecture était Baudouin Dernicourt, qui a bien freiné l'enquête. Au final, on a traité tous ces témoins comme des fous et on n'a pas tenu compte de leurs témoignages. Et toutes les personnes citées par des témoignages qui se recoupaient ont pu continuer leur saleté en toute impunité. Concrètement, on a remplacé les enquêteurs qui avaient mis ces témoins en confiance par Duterne, devenu chef de la cellule d'enquête de Neuchâtel, et sa bande, qui ont tout fait sauf mener l'enquête. Ils ont même cherché à déstabiliser des témoins déjà bien mal à l'aise et ont déclaré à tous les médias que les témoins étaient mythomanes alors que leurs prédécesseurs avaient déjà pu vérifier un certain nombre de faits, de lieux, de noms. On notera que la technique a été exactement la même dans l'affaire Allègre en France, où les témoins qui ne sont pas morts opportunément ont fini en prison pour avoir osé dénoncer Dominique Baudis et d'autres tarés puissants du coin. Pour donner une idée de campagne de la décrédibilisation, on peut retenir que l'enquête de Dernicourt destinée à décrédibiliser le témoignage de X1 a coûté plus cher que l'enquête destinée à vérifier ses propos, qui a, il est vrai, été rapidement close. En 2008, Dernicourt était commissaire de la police fédérale, section exploitation sexuelle. La bande de Dernicourt s'est ensuite acharnée sur les premiers enquêteurs à avoir interrogé les témoins X1 et X2 qui ont été virés de la gendarmerie puis blanchis des années après. Quant aux témoins, ils ont refusé de parler à Dernicourt et à ses copains. Tout est parti en vrille quand des membres de la famille royale et de grandes familles aristocratiques belges comme les Mérode ont été cités. Par exemple, le prince Alexandre de Mérode a été cité par Nathalie W et le témoin X4 comme un acteur central de l'aspect satanique des viols et meurtres d'enfants. Chez les Mérode, cela fait des dizaines d'années qu'on étouffe les affaires de pédophilie. Nathalie W décrit des sacrifices humains, du cannibalisme, des enfants marqués au fer rouge, des viols collectifs. X2, quant à elle, a parlé d'une partie de chasse aux enfants dans un château appartenant à Liliane de Réti, la seconde femme du roi Léopold III, qui est morte en 2002 au château d'Argenteuil. Des enfants seraient même enterrés dans le parc. Le roi Albert Ier a été impliqué par X3, ainsi que le roi Baudouin et son frère Albert II, aujourd'hui roi des Belges. X3 a décrit des abus rituels qui se seraient produits dans les années 50 et 60, même si elle ne parle pas de cap et d'incantation. Elle décrit comment des adolescentes enceintes ont été éventrées, puis démembrées, leurs bébés tués, comme les enfants et les participants ont bu le sang des morts et mangé leur chair. Comment un bébé a été donné au chien par Polo, à savoir Van den Boynant. Comment des enfants de 3 ou 4 ans ont été assassinés dans les pires tortures. X3, notamment, était livré à cet arrêt. Pour étouffer l'affaire, on a placé des pions au niveau de la justice, de la gendarmerie et de la police judiciaire. On a systématiquement éliminé les témoins gênants, plus de 30 décès suspects, et menacé les autres. On a décrédibilisé ceux qui avaient déjà parlé, si bien que les autres victimes ont vite compris qu'elles devaient se taire, et on a promu les pourris, nombreux, innombrables même, dans le dossier. La morale de l'histoire. Avant l'affaire du trou, parfois on lisait un entrefilet sur un réseau pédophile de curés par-ci, de flics par-là. Depuis, plus rien. C'est comme si depuis l'affaire du trou, il n'y avait plus de réseau en Belgique. Abordons le sujet des snuff movies. Les premiers snuff movies dateraient des années 70, mais aujourd'hui la pensée unique continue de nier leur existence, alors qu'il suffit de 3 clics sur le dark web pour en trouver. un certain Jean-Pierre Van Rossem a cherché à savoir de quoi il retournait en Belgique au début des années 1990. Il s'est rendu dans un vidéoclub qui vendait des snuff movies pédophiles sous le manteau et a demandé à participer à un tournage. On lui a donné rendez-vous à Breda, aux Pays-Bas, et on lui a proposé de participer au meurtre filmé pour l'équivalent de 75 000 euros ou simplement de regarder pour 45 000 euros. Avec de tels prix, il est évident que les snuff movies ne sont pas un passe-temps de prolétaires. Van Rossem a signalé cela aux flics et à la justice de Breda, mais il n'a jamais été entendu à ce sujet. Toutefois, X2 a identifié Van Rossem comme étant présent à des partous pédophiles avec Marnette, Zimmer, Léopold Lippens, Dumont, Bonvoisin, Bouhouche. Un autre témoin l'a vu commettre des actes pédocriminels. Au début des années 1990, un certain Warwick Spinks, un pédocriminel anglais qui a toujours été libéré plus vite que son ombre, a admis avoir tué plusieurs enfants lors de tournages de snuff movies aux Pays-Bas. Il disait que ses films se copiaient en une dizaine d'exemplaires, puis qu'ils étaient revendus pour 5000 livres l'unité. En 2003, un Russe qui avait tourné plusieurs de ses films n'a été condamné qu'à 3 ans de prison pour production de pornographie enfantine. Voici quelques liens. Le Parc Savoy. SA Parc Savoy en 1985, constitué notamment de la SA International Trade Relations du groupe Charlie de Pone, de la SA Bâtiment et Pont du groupe Blaton de Philippe Krinz. André Blaton, administrateur délégué de la SA Parc Savoy. Puis la SA Parc Savoy a fusionné avec Codenat SA, société de restauration du Cercle des Nations, qui s'est ensuite déclarée en faillite. Pourtant, le Parc Savoy était l'une des 3 grandes boîtes de Bruxelles. Le Mirano. Le Mirano appartient à Philippe Krinz, autre membre du Cercle des Nations, qui a aussi été à l'origine en 1985 d'un gros projet immobilier où beaucoup d'argent a été détourné, le Parc Savoy. Les aristos du pays venaient s'encanailler au Mirano dans les années 80, notamment au cours de partouzes avec des mineurs. Parmi les habitués, le baron Bonvoisin. D'après le rapport Godbill, on trouvait là beaucoup d'amis de VDB, pardon, comme Patrick de Pone, le chanteur Plastic Bertrand. Le témoin X1 parle de partous pédophiles sadomaso qui ont eu lieu. Krinz allait chercher des garçons à la place Fontenas, là où se servait aussi un certain Hedwig Wiebrecht, un gendarme qui avait organisé un réseau de prostitution de mineurs dans les années 80. La place Fontenas, en plein cœur de Bruxelles, était un haut lieu de prostitution, notamment d'enfants. Le témoin VM1, l'un des témoins X, a dit qu'il a été prostitué par Krinz au Mirano. Avant cela, VM1 a été placé dans un home à Brasschat, où le directeur l'envoyait déjà se faire violer dans des partouzes. VM1 a décrit des tortures et meurtres d'enfants, des viols collectifs, des lieux précis, mais bien sûr, on s'est empressé de balancer son dossier aux oubliettes. Au sujet de VM1, précisons encore qu'il a volé des photos compromettantes de personnalités chez un colonel du CHAP, un quartier stratégique de l'OTAN. Il va sans dire que le témoin VM1 a été menacé. Des photos étaient prises par Krinz lors des partouzes qui avaient lieu au Mirano. La bonne vieille technique pour compromettre les gens. Un gros trafic de drogue s'y déroulait également, ce qui a valu une petite condamnation à Krinz, mais on a surtout évité de regarder du côté des partouzes pédophiles. Enfin, d'après Newell lui-même, le frère du roi, c'est-à-dire le roi actuel, était présent lors de partouzes pédophiles au Mirano. La piscine à présent, la piscine à Etterbeek, anciennement la lune des pirates. On pouvait y organiser des partouzes avec des enfants. Appartient à Marcel Hoffman, qui a aussi créé la branche belge du Bagwan Tantric Club, dans une association basée à la piscine 23 rue de l'Égalité à Etterbeek, néo-Nantra. Mouvement avec de nombreux adeptes aux États-Unis et en Inde. Orgie sexuelle, devenu CCT, Centre communautaire tantriste. En avril 1994, l'adresse du groupe change pour aller au 29 Kamenstraat, pardon, à Anvers, où il est toujours. C'est là que l'année suivante, en novembre 1995, les flics perquisitionnent à la recherche d'Eric Mathesen, qui prenait des photos de morts d'accidents de voiture dans les morgues. Au premier étage, les flics ont trouvé des boîtes avec des photos d'enfants normales ou pédoporno avec des viols et des enfants morts. Le Jonathan, club détenu par Pierre-Paul Derrick, un fasciste qui fut l'associé de Newell et était proche du front de la jeunesse. Au club Jonathan, on n'hésitait pas à faire chanter les clients. Le Stanley, ce club à partouze bruxellois date des années 1960 et a fermé en 71 ou 72. Il appartenait à un certain Michel Hoffmans, venait en plus des anciens colonions du Congo belge, quelques huiles fascinantes et des cadres américains d'IBM, une boîte dont Hoffmans et son bras droit étaient proches et pour laquelle il travaillait, selon un témoin interrogé dans le cadre de l'affaire Dutroux et d'Union Carbide. Au deuxième étage, on tournait des films porno, parfois zoophiles, et derrière le bar, il y avait une autre future avocate de Newell, Virginie Baron Yanka. Les partouzes étaient filmés et les films étaient emmenés par avion privé en Suisse. Le but du Stanley était probablement de racoler des personnalités. Le témoin citait plutôt expliqué ainsi que, je cite, « Hoffmans recherchait surtout des gens avec de l'argent et qui occupaient des fonctions de premier plan. Magistrature, haut gradé de la police et de l'armée, médecins, nobles, etc. » Parmi les clients, le père de Patrick Desrochettes, une copie de Dutroux qui a enlevé et tué la petite Loubna Benaïssa, mais aussi le père de Dutroux. Je cite, « Les orgies sexuelles dont il est question plus haut ne sont-elles pas conçues à organiser pour exercer des chantages sur diverses personnalités ?» s'interrogeait le rapport Godbill. Une hypothèse à tout ce bazar est que les fachos du PSC ont été utilisés par les services US pour mener leur politique « stay behind » en Europe. Comment ? En les compromettant avec des vidéos de partouzes pédophiles. Il fut un temps de simples accusations d'homosexualité suffisaient pour faire plonger quelqu'un. Mais aujourd'hui, il en faut plus. Tout le monde a des dossiers sur tout le monde. Tout le monde se tient par la barbichette. Ces structures sont aussi dans tous les pays d'Europe et existent toujours. Si on ajoute à cela une pincée de satanisme et beaucoup de cocaïne, on comprend mieux pourquoi l'Europe va si bien. Pendant ce temps, les enfants continuent à être aspirés dans des réseaux de barbares. La drogue continue de rentrer par tonnes dans nos pays pendant que les armes en sortent illégalement. Les marchés publics sont des cagnottes sans fin, tout le monde se gave et les institutions collaborent. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. À propos des 30 témoins morts du procès Dutroux, l'éternelle question des coïncidences troublantes. Je cite. Lorsque j'ai entamé mes recherches, pour ce livre, il y a plus de 2 ans, il y avait pour titre provisoire « Les témoins morts, 18 personnes qui ne parleront pas au procès Dutroux ». Il s'annonçait peu épais et concis, mais la liste n'a cessé de s'allonger. Raconte Douglas de Coninck, journaliste au Morgen, auteur du livre sur l'affaire Dutroux, intitulé « 30 témoins morts ». Dans ce livre, le journaliste polémique passe en revue 30 décès survenus de près ou de loin dans la sphère de Marc Dutroux, dans celle de ses complices présumés ou de gens qui auraient pu l'être, voire dans l'entourage de l'enquête en général. Je cite « 7 meurtres, 10 suicides, 5 accidents de la circulation et 8 morts naturelles » comptabilise de Coninck. En 8 ans, forcément, des gens sont morts, mais il y a trop de coïncidences, soutient Douglas de Coninck. Un seul homme, quatre enfants assassinés et 30 cadavres autour. Peut-être que c'est le hasard qui a frappé 30 fois, mais seul celui qui ne se pose pas la question connaît la réponse. Extrait. Venons-en maintenant à la question évidente. Quelle est la mystérieuse organisation qui est responsable de ce génocide de miniatures? La seule certitude que nous ayons, c'est que si elle existait vraiment, la justice ne s'en serait pas aperçue. En tout cas, pas à partir de ces 30 témoins décédés. En 2001, le journaliste Piet Ekman de la chaîne de télévision allemande ZDF avait déjà posé tout haut quelques questions basées sur une quinzaine de cas. Je cite. Que voulez-vous? Les gens meurent, c'est comme ça, avait réagi le ministre de la Justice. Et dans ces milieux-là, il y a sans doute un peu plus de gens qui meurent. 7 meurtres, 10 suicides, 5 accidents de la circulation et 8 cas de mort naturelle, entre guillemets, pas toujours si naturelle que ça d'ailleurs. Il est vrai que la Belgique est connue comme un pays au réseau routier meurtrier et qui se classe dans le peloton de tête mondial pour ce qui est de la consommation d'antidépresseurs. Un certain nombre de ces décès, et en particulier les suicides, ont des causes que l'on peut supposé distincte à l'affaire du trou elle-même. Mais il n'est pas toujours aussi évident de délimiter les choses de façon très nette. Henriette Puers vivrait-elle encore si elle n'avait pas été empoisonnée pendant des mois sur ordre de son beau-fils? À mon avis, la réponse est oui. Sur 7 meurtres, un seul a été élucidé, celui qui a été commis par Dutroux lui-même. Pour 4 des 5 accidents de la route, les familles des victimes ont du mal à croire à la thèse de l'accident. Parmi les suicidés, on retrouve l'homme qui aurait dû être avocat général aux côtés du procureur Michel Bourlet, et aussi deux policiers et deux hommes que la police souhaitait interroger d'urgence. Le voisin de Bernard Weinstein est mort 10 jours après l'enlèvement de Julie et Mélissa. Parmi les accidentés de la route, il y en a un qui a trouvé la mort en se rendant au palais de justice, et une qui avait contacté la police quelques heures avant son crash pour signaler qu'elle avait reçu des menaces de mort. Sous un seul et même toit, il y a eu la mort d'un mari, de sa femme et finalement aussi du nouvel ami de la femme, tous dans des circonstances qui ont fait penser à des actes de malveillance. Juste une constatation, 6 meurtres sur 7 ont été commis dans les milieux de trafiquants de voitures, intimement liés à la bande du trou. Initialement, l'enquête de Neufchâteau avait pour objet les assassinats d'enfants et le trafic de voitures. En 1998, à l'initiative du juge d'instruction Jacques Langlois, le volet trafic de voitures a été séparé et transféré dans un autre arrondissement judiciaire. On a jugé qu'il n'y avait aucun lien. Pourtant, certains parents d'enfants assassinés restent convaincus que depuis lors, une recherche objective de la vérité est devenue impossible. C'est comme si un chimiste voulait examiner ce que donne la fusion de deux substances, mais qu'il ne disposerait, pour son expérience, que d'une des deux substances en question. Le scénario est presque toujours le même. Un individu déclare qu'il a des révélations importantes, voire explosives, à faire dans le cadre de l'affaire Dutroux et consorts, et le jour même où il s'apprête à témoigner, ou la veille, il y a un accident mortel, où il se suicide dans des circonstances énigmatiques. Je cite, aucun de ces décès n'a semblé intéresser le juge Langlois en quoi que ce soit, en dépit des incessantes tentatives du procureur Michel Bourlet d'attirer son attention sur ces affaires. Début juillet 1995, les parents de Julie Lejeune et Mélissa Russo, disparus depuis 2 semaines, reçoivent un appel téléphonique d'un courtier en assurance, sorte de père adoptif d'une jeune cocaïnomane répondant au nom de François Reiskens. Ce jeune homme, explique le courtier, déclare avoir rencontré les petites Julie et Mélissa. Aussitôt, Karine Russo alerte la gendarmerie de Seraing et rendez-vous est pris avec le jeune François Rexin pour le 26 juillet. François Rexin meurt écrasé par un train 2 heures avant ce rendez-vous. L'enquête conclut au suicide. Son père, Jean Resquin, je cite, « C'est plutôt étrange que juste à ce moment-là, il finisse sous un train. Est-ce vraiment une coïncidence ?» Guy Goebbels. Le 25 août 1995, Guy Goebbels, adjudant à la brigade de gendarmerie de Grasse-Ologne, va rencontrer la presse. Il a obtenu l'autorisation de ses supérieurs d'être interviewé par une équipe de la RTBF. Il faut dire qu'il est l'un des premiers gendarmes à avoir été en contact avec les familles des petites Julie et Mélissa. Il est aussi, selon le témoignage des familles, le jeune et Russo, l'un des seuls à ne pas parler de pistes mafieuses, mais bien de pédophilie. L'interview n'aura pas lieu. Guy Goebbels est retrouvé mort le 25 août 1995, une balle dans la tête, son arme dans une main, le cornet du téléphone dans l'autre. Coïncidence, le 25 août 1995 est le jour où débute officiellement l'opération Othello, cette fameuse opération funeste de surveillance de Dutroux durant une période où celui-ci détenait en principe Julie et Mélissa dans sa cache, Anne et Effie dans la même maison où il put encore commettre plusieurs actes délictueux sans que les surveillants ne s'aperçoivent de rien. Il est vrai que pour réussir leur coup d'éclat, les gendarmes n'ont rien trouvé de mieux que de mettre à la tête de l'opération Othello René Michaud. Je cite « un peu le Gaston Lagaffe de son service ». Il avait des problèmes familiaux et professionnels et ses supérieurs ne l'appréciaient pas en raison de ses bourdes répétées. Bruno Tagliaferro, mort le 5 novembre 1995. Ferrailleur, sans doute magouilleur, Bruno Tagliaferro et son épouse Famienne Jopard paraissaient heureux en ménage. Parmi les relations de Bruno, on retrouve Marc Dutroux, Bernard Weinstein, Michael Diacosta-Vrianos. Dans le dossier, on pourra encore lire le nom de Thierry de Hanne et de Michel Lelièvre. Fabienne Jopard déclare que son mari possède des armes pour les défendre, elle et les enfants. Elle pense que Bruno est détenteur d'un secret qui met leur vie en péril. Fabienne Jopard croit que son époux s'est rendu compte qu'il avait à son insu été chargé du démontage et de la revente des pièces de la Citroën AX qui aurait servi à l'enlèvement de Julie et Mélissa. Bruno Tagliaferro meurt la veille du jour du 4 novembre 1995 où Dutroux et Weinstein séquestraient trois personnes, Rochaud, Divers et Jadot, pour une histoire de camion volé. L'un des premiers hommes de la police judiciaire sur les lieux du décès est l'inspecteur Georges Zico. Le légiste conclut à un arrêt cardiaque. Un laboratoire du FBI, consulté par le juge Conrot, conclut à un empoisonnement, mais un expert liégeois, désigné ultérieurement par le juge Langlois, estimera que la production de cyanure par un cadavre en décomposition peut être un phénomène naturel. Ah bon. Malgré les taux de cyanure retrouvés dans le corps de Tagliaferro, au-delà des doses pouvant être autoproduites, le juge Langlois privilégiera la mort naturelle comme explication du décès du ferrailleur de Quemier. Fabienne Jopard, décédée le 18 décembre 1998. Le juge Conrot semble ajouter foi aux déclarations de Fabienne Jopard lorsqu'elle proclame que son mari a été assassiné. Il semble aussi prêter attention aux déclarations de Claude Thiraud. Claude Thiraud qui affirme que Marc Dutroux parlait fin 95 d'un certain Tagliaferro à liquider contre un paiement de 50 000 francs. Lui et sa femme, disait Claude Thiraud. Le juge Conrot considère qu'il a suffisamment d'informations pour accorder une protection policière à la veuve de Bruno. Après la nomination du juge Langlois, la protection policière fut levée. Et le 18 décembre 1998, Fabienne Jopard est retrouvée morte. L'enquête conclut bien évidemment à un suicide. Fabienne Jopard se serait aspergée de méthanol, aurait remis la bouteille sur le meuble à côté de son lit et se serait ensuite immolée. Non sans avoir pris soin de mettre les pommes de terre à cuire sur le réchaud et de faire tourner le lave-vaisselle. Michel Pirot, mort le 5 décembre 1996. Michel Pirot, exploitant de bars-restaurants dans la clientèle desquels on retrouve Marc Dutroux, Bernard Weinstein, Michel Lelièvre, Michel Newell, Michael Diacostra-Vrianos, il est, au dire de certains, un véritable guide Michelin des quartiers chauds de Charleroi, contacte à trois reprises la famille de Jean-Denis Lejeune et lui demande une entrevue à laquelle il souhaite que soit convié le procureur Michel Bourlet. Son intention est également d'organiser un souper avec les parents de Julie et de Mélissa, repas au cours duquel il s'apprête à faire des révélations sur le sort des deux petites liégeoises. Plusieurs témoins le diront, parmi ceux-ci, un indicateur de la BSR de Charleroi affirme que, je cite, « Pierrot aurait dit quelques jours avant son décès qu'il allait balancer tout ce qu'il savait sur le dossier Julie et Mélissa lors du repas qu'il organiserait. Selon son fils, il aurait dit que des têtes allaient sauter. On ne saura jamais quelles étaient ses révélations. Le 5 décembre 1996, il est exécuté à bout portant sur un parking d'autoroute tandis que son épouse est sortie pendant quelques instants du véhicule pour se rendre aux toilettes. Il en savait long sur le milieu de la prostitution enfantine de la région de Charleroi. Quand on feuillette le dossier du trou, on a parfois le sentiment qu'il n'y a que deux policiers à Charleroi, Monsieur Zico et Letem. C'est à ce dernier que l'enquête sur l'assassinat de Michel Pierrot est confiée et elle conclut au meurtre passionnel. Sa femme, Véronique Laurent, sera condamnée à 15 années de réclusion en tant que commanditaire du meurtre, alors que les deux exécutants seront blanchis par un tribunal français qui considéra que ce dossier n'a aucune consistance. La rumeur dira que Michel Pierrot voulait révéler que Julie et Mélissa avaient été prêtées à un bar fin 1995. Une de ces pistes sérieuses que le juge Langlois écartera, non sans avoir veillé auparavant à la baptiser piste périphérique. Pendant 4 ans, le dossier Pierrot fait l'objet à Neuchâteau d'une correspondance envenimée entre le procureur Bourlet qui demande que soit poursuivie l'enquête sur l'entourage de M. Pierrot et le juge d'instruction Langlois qui refuse d'enquêter. Jean-Marc Houdemont, décédé le 25 février 1997. L'inspecteur Tinan décroche le téléphone dans une annexe du palais de justice de Namur. L'homme est chargé du dossier de la disparition d'Elisabeth Brichet le 20 décembre 1989 à Saint-Servais. Puis l'éclatement de l'affaire Dutroux, il s'est avec ses collègues remis au travail sur ce dossier. À l'autre bout du fil, Jean-Marc Houdemont, qui vivait en 1989, à quelques centaines de mètres de la maison d'Elisabeth. Je cite « J'ai fait une bêtise », déclare Jean-Marc Houdemont, « je veux faire une déclaration ». Ils conviennent alors d'un rendez-vous le jour même à 11h30, juste le temps pour Jean-Marc Houdemont de faire en voiture le chemin qui les sépare des bureaux de la cellule Brichet. Une heure plus tard, la Toyota Starlet de Jean-Marc Houdemont s'encastre dans une façade sur le bord de la Nationale 76. L'enquête conclut au suicide puisqu'on n'a relevé aucune trace de freinage. Mais ici encore, les mêmes noms sont retrouvés. Michel Lelièvre a fréquenté une école de Saint-Servais. Le beau-père de Jean-Marc Houdemont a vécu au Congo, dans le même village et à la même époque que Victor Dutroux, le père de Marc. Marc Dutroux, qui vivait de l'assistance maladie, était inscrit à la mutuelle au bureau, de Saint-Servais. Dans une escroquerie à l'assurance, Dutroux et Weinstein provoquent entre eux un accident et c'est un parent de la femme de Jean-Marc Houdemont qui, en tant qu'assureur, traite le dossier. D'autres noms de co-inculpés de Dutroux apparaissent dans le dossier Elisabeth Brichet, dont celui de Diaco Stavrianos et celui de Newell. Joseph Toussaint, mort le 5 mars 1997. 8 jours exactement après la mort de Jean-Marc Houdemont, le père Joseph Toussaint décède à Marbelle-à-Tours, petit village où se rendait régulièrement, selon les uns, une ou deux fois, disent les autres, Monique Cherton, compagne de Jean-Marc Houdemont, et Michel Martin, épouse de Marc Dutroux. Le père Joseph Toussaint était leur confesseur. Il était aussi l'aumônier de la prison de Jamioulx, prison où fut incarcéré Marc Dutroux. Le directeur de la prison déclare que les relations entre le père Toussaint et Marc Dutroux auraient pu laisser penser que Dutroux était un fervent catholique. Le père Toussaint se prononcera en faveur de la libération conditionnelle de Dutroux. Parmi les photographies épinglées au mur de la cellule de Marc Dutroux et publiées par Libre Match, on peut reconnaître une photo du père Joseph Toussaint, victime d'une crise cardiaque le 5 mars 1997. José Stepp, décédé le 25 avril 1997. Au début des années 80, José Stepp habite le quartier de Marc Dutroux à Goutroux. Ancien jeune communiste, Stepp vire à l'extrême droite. En avril 1997, José Stepp contacte un journaliste. Il affirme détenir des informations sur l'affaire Dutroux et parle de remettre aux journalistes des copies de cassettes vidéo sur lesquelles on peut voir Dutroux et d'autres en train de violer des enfants. Je cite « Il était inquiet », dit un témoin anonyme au journaliste français Eric Belaouel. « Un jour, tu me trouveras avec une balle dans la tête », lui aurait dit Stepp. Il lui aurait encore dit que ces cassettes vidéo, c'était de la dynamite, qu'on pouvait y reconnaître des notables de Charleroi, des politiciens connus. Stepp ne voulait pas donner la cassette à la police parce qu'il y avait là, disait-il, trop de gens corrompus qui les feraient certainement disparaître. José Stepp souffre d'asthme et pour soulager les crises qui l'accablent, il se sert d'un respirateur. Le 25 avril 1997, quelques jours avant sa rencontre avec le journaliste avec qui il a pris contact, une femme d'ouvrage de l'hôtel dans lequel il réside découvre son corps dans un couloir, son masque à oxygène recouvrant toujours son visage. Au fond de la bouteille de l'inhalateur, on découvre du rohypnol, 3 jours après l'enterrement. Gina Pardines Bernair, décédée le 15 novembre 1998. Voici sans doute une femme qui n'a pas froid aux yeux. Elle collabore avec le Morkoven Group, une association qui pourchasse les pédophiles sur Internet et dans le monde réel. Elle a affirmé à plusieurs personnes qu'elle détenait, entre autres choses, un snuff movie tourné en Belgique. Dans ce film, on pouvait reconnaître un ancien associé de Michel Newell. Gina Pardens se sait menacée. Elle surveille ses arrières. Fait des portraits robots des personnes qui semblent traîner trop souvent autour d'elle. Note les plaques minéralogiques des véhicules qui paraissent la prendre en filature. Parmi ceux-ci, l'immatriculation d'une Mercedes grise qui plus tard s'avérera être celle de l'ancien chauffeur du Dolo, le bar à fille favori de Michel Newell. Gina Pardens devait faire une déposition le 16 novembre 1998. Le 15 novembre, sa voiture s'écrase contre le pilier d'un pont. Pas de traces de freinage, pas d'autopsie. Hubert Massa, mort le 13 juillet 1999. Ce chapitre sur le suicide de Massa mérite une attention toute particulière car il fait apparaître de manière plus éclairante des liens multiples entre différents aspects et personnages des dossiers Cools et Dutroux et consorts. Selon les magistrats du parquet de Liège, rien n'est plus pareil depuis la nomination d'Anne Tilly. Elle n'incarne que l'autorité, entend-on dans les couloirs du palais. Anne Tilly semble ne pas apprécier Hubert Massa. L'épouse de celui-ci déclare « Il était sur les affaires Cool et Dutroux, tout le monde le savait. Je voyais bien que quelque chose n'allait pas, mais il ne se plaignait jamais. » Hubert Massa participe à une réunion avec 4 procureurs généraux et le tout nouveau ministre de la Justice, Marc Vermeulen. Réunion autour de laquelle l'ancien président de la commission parlementaire annonce qu'il fera en sorte que toute la lumière soit faite. Au lendemain de cette réunion, le 13 juillet 1999, après le repas pris en compagnie de sa femme et de ses enfants, Hubert Massa s'isole dans son bureau. Sa femme entend un coup de feu. Hubert Massa s'est tiré une balle dans la bouche. Généralement, lorsqu'on obtient un poste au parquet général, on est indéboulonnable et on reste à cet échelon supérieur jusqu'à la retraite. Mais pas à Liège, où les avocats généraux Delacroix et Zaplicky se font dégrader à leur propre demande début 1999. L'un devient juge de la jeunesse et l'autre passe juge de la paix. Hubert Massa avait également des projets en ce sens. Massa aurait dit à un ancien collègue et ami qu'il se sentait coincé. Je cite « Après sa mort, des rumeurs circulent parmi les avocats de Liège, selon lesquelles Tilly lui aurait déclaré quelque chose dans ce sens quelques heures avant sa mort. Il aurait été question d'un petit dossier et du fait qu'il lui arriverait quelque chose comme à Marc de la Brassine. Anne Tilly est considérée comme intouchable. » Sa candidature au poste de procureur général a été appuyée très fermement par José Appart. Celui-ci faisait partie du clan radical de Jean-Maurice de Housse, qui devait également accueillir plus tard le ministre Alan Van der Bist et Guy Matteau, qualifiés un jour de mafieux par quelqu'un de son propre parti. Au sein du PS, Cools faisait pour le grand adversaire de Housse, Matteau, Appart et consorts. Le dossier pénal contenait d'ailleurs des indices qui tendent à faire croire à leur implication dans l'organisation de cet assassinat. Van der Bist devait comparaître devant les assises avec ses amis mafieux. Tilly n'était pas de cet avis, et elle mettait ses collaborateurs sous pression pour faire rayer son nom de la liste des accusés. Une fois de plus, l'ambiance était aux menaces et aux petits dossiers. Tilly avait des dossiers sur tout le monde, y compris sur Julien Pierre. La sœur de ce dernier avait déclaré que l'avocat avait hébergé par le passé Patrick Emers. Tant dans l'affaire Kouls que dans l'affaire Dutroux, Pierre a joué avec brio le rôle de l'allié objectif de Tilly, notamment en précipitant la chute de ce juge d'instruction indépendant et donc tellement encombrant. Jean-Jacques Ferron, mort le 1er mars 2001. Je cite « On ne veut pas aller jusqu'au bout dans cette enquête » de l'inspecteur de la PJ Ronald Speltons. Le 4 mai 1995, la section jeunesse de la PJ de Bruxelles reçoit une lettre anonyme proposant des infos sur un pédophile qui vend des photos et des vidéos à caractère sexuel de sa fille de 10 ans. Ces informations s'avéreront fondées. Le 11 juillet de la même année, le même informateur déclare avoir vu des photos de Mélissa Russo proposées avec d'autres enfants à la vente ou à la location par un germanophobe dont les initiales figurent sur une chevalière qu'il porte, KB. Les inspecteurs Speltens et Colson déclarent que cet informateur est fiable, il a fait déjà ses preuves. Il réquisitionne des spécialistes de la filature, envoie une note au commissariat général dans laquelle ils exposent leur projet. Ils demandent pour le 23 septembre 1995 deux sémaphones et deux voitures de service. Et le temps passe. Les parquets de Louvain et de Liège se renvoient la responsabilité dans ce dossier comme une patate chaude. Le commissaire Lamocque dit aux parents de Julie et Mélissa qu'il n'a jamais compris pourquoi on avait décidé en haut lieu que cela ne pouvait se faire. On retrouve dans ce volet de l'affaire la substitute Sommers, une intervention ici, comme dans le volet sur les témoins X, pour ne pas dire la vérité. Pour les enquêteurs, KB évoque tout de suite Klaus Bahr, qui contrôle une grande partie du marché belge du porno dans les années 90. Klaus Bahr est également décédé depuis lors. Quand Marc Dutroux est arrêté 11 mois plus tard et que deux enfants sont libérés de sa cave cache à Marcinelle, localité que Jean-Jacques Ferron avait désignée, les enquêteurs s'arrachent les cheveux. Ils expriment leurs incompréhensions à leurs supérieurs. Le 1er mars 2001, Jean-Jacques Ferron décède à la suite de deux crises cardiaques consécutives. Le commissaire Speltons dira devant la commission parlementaire d'enquête, je cite, si la magistrature avait laissé la PJ monter un guet-apens autour de Ferron, les gamines auraient peut-être été retrouvées. On ne veut pas aller jusqu'au bout dans cette enquête. Brigitte Genard, décédée le 5 avril 1998. Ce chapitre, qui se trouve dans la version néerlandaise de l'ouvrage de Koninck, a disparu à la suite de défaillances techniques de la traduction française. Nous l'ajoutons donc car il nous paraît important. Cette dentiste de Newell a son cabinet au 35 rue du Conseil à Ixelles, la même où habite Roland Corvillon, un pédophile notoire qui recevait régulièrement la visite d'Achille Emers, le père de Patrick, et qui a été suspecté dans le cadre de la disparition de la petite Loubna. L'ex-épouse de Corvillon, qui est convaincue que Dutroux est aussi passé par là, déclare que son mari, Newell et les autres utilisaient un langage codé, parlait de chevaux blancs, bruns, jeune, cher, mais bon et jeune. Comme ces chevaux étaient censés arriver par avion de ligne en provenance de pays d'Europe, de l'Est, et que les hommes semblaient craindre les douanes, elle pouvait logiquement supposer qu'ils ne parlaient pas de quadrupèdes. Je cite « Il est clair pour moi qu'ils ne parlaient pas de chevaux, mais de jeunes enfants. » Brigitte Genard a été la maîtresse du truand Juan Borges, qui a également eu une liaison avec Annie Bouty. C'est Brigitte Genard qui informe la commission parlementaire d'enquête que Borges a échappé à la justice belge grâce à Nul. Ce dernier aurait convaincu le commandant Guido Torres de bloquer l'action policière visant à arrêter le truand. Au milieu des années 80, Torres travaille avec un parrain mafieux italien. Dans cette lettre manuscrite datant du 7 mai 1997, Genard fait état de la naissance d'un bébé guinéen de l'adoption duquel Bouty se serait occupé. Elle déclare que Bouty lui a fait signer un jour 40 attestations qui lui conféraient la garde de 40 Zaïrois et Nigériens en séjour illégal en Belgique. Dans les gribouillis de sa petite lettre d'adieu, on peut reconnaître le mot « pédophilie ». Je cite « Un trafic de nouveau-nés ? Point d'interrogation. Il semblerait bien que oui. Sur la base des maigres pièces du dossier qui ressurgissent 10 ans après les faits, on a l'impression que Bouty et Nul s'occupaient de trafic d'êtres humains, des adultes aux tout-petits. Le parquet de Bruxelles n'a pas fait pratiquer d'autopsie sur le corps de Brigitte Genard. » Toutes ces morts ne sont peut-être pas directement liées à l'affaire jugée à Arlon depuis le 1er mars. Certains disparus étaient des individus au comportement et au jugement très problématiques. C'est en particulier le cas de José Step, fasciste notoire. De même, on peut s'interroger, comme certains l'ont fait, sur la fiabilité du témoignage de Rita Verstuppen, qui avait tout avantage à collaborer avec la justice, étant elle-même suspecte dans l'affaire de son mari. Mais certaines coïncidences restent fort troublantes. Certaines familles, certains proches de victimes restent sceptiques quant aux versions officielles qui ont été retenues, des versions souvent confuses et contradictoires. Pour les autres témoins qui ne seront jamais entendus à Arlon, et pour plus d'informations sur les accidents et suicides relatés ci-dessous, nous vous recommandons fortement la lecture de l'ouvrage de Douglas de Coninck. La troisième chaîne allemande, la ZDF, a également consacré une très bonne émission à cette question. Piet Ekman, la mort subite de l'affaire du trou, datant du 30-01-2001. Thiraud est l'informateur qui, dès 93, alertait la gendarmerie du projet de Marc Dutroux de faire des caches dans ses caves en aménageant des citernes que la gendarmerie avait déjà perquisitionnées pour des vols la même année. La gendarmerie connaissait donc l'existence de ces citernes en 1995, ainsi que l'endroit de la cave où l'une d'elles aboutissait. À présent et pour terminer, voici la chronologie détaillée de cette histoire. Avant 1992, Nul et Dutroux font leur nid. En 1970, Michel Nul s'implante à Bruxelles, rencontre sa future épouse Annie B., avocate spécialisée en droit des étrangers, et Philippe Deleuze, avocat et politicien PSC, dont il organise des campagnes électorales. Il a déjà commencé ses activités d'escroc. Ses premières condamnations remontent à 1968, banqueroute frauduleuse, et 1976, chèque sans provision, escroquerie, détournement. Le 8 mars 1973, le ministre de la Défense Paul Van den Bonant est présent à l'inauguration des locaux d'ASCO, l'entreprise de fourniture de pièces dans le domaine de l'armement à Zaventem. En tout cas, Van den Bonant a fourni de juteux contrats à l'entreprise dans les années 1970 et le patron Roger Boaz a été soupçonné de lui avoir versé des pots de vin. En 1981, rencontre entre Martin et Dutroux à la patinoire de Forest à Bruxelles. Et Weinstein est condamné à 15 ans de prison pour une série de braquages avec des armes en région parisienne. Il a bénéficié de grosses remises de peine et est sorti en 1985 pour aller directement en Belgique. 13 mars 1982, début des tueries du Brabant. Première vague avec l'attaque d'une armurerie à Dinan. 30 août 1982, disparition de Karine Delaire, une amie de Regina Louf, l'un des principaux témoins au sujet du réseau dont les témoignages ont été classés sous le nom de X1. Son corps ne sera jamais retrouvé jusqu'en septembre 85. 10 juin 1983, 18 décembre 1985, divers faits criminels ou délictueux sont commis par Marc Dutroux. Viol, séquestration de 5 mineurs, vol simple, vol avec agression, avec circonstances aggravantes, port d'armes illégales. 1er décembre 1983, fin de la première vague des tueries du Brabant avec l'attaque d'une bijouterie à Anderluz, 2 morts. Selon plusieurs témoins, ces attaques étaient des règlements de compte. 13 février 1984, meurtre de la champignonnière, Christine Van Hesse, 17 ans, est retrouvée morte à Bruxelles. Regina Louf déclare plus tard comment le crime s'est déroulé et qui était présent. 20 février 1984, une copine de Christine Van Hesse, Fabienne K., parle aux enquêteurs de réunions secrètes que Christine avait depuis quelque temps avec des gens plus âgés, qu'elle commençait à les craindre parce qu'ils avaient des jeux qui devenaient violents et envisageaient de s'en éloigner. « Elle m'a dit qu'une fois qu'on entrait dans cette bande, on n'en sortait plus », a-t-elle déclaré. Fabienne K. parle aussi d'un rendez-vous avec un certain Marc de la région de Mons, le week-end avant sa mort. Une autre amie, Ariane M., parle d'un Marc de la région de Mons que Christine avait rencontré peu avant à la patinoire. D'autres amis disent l'avoir vu peu de temps avant sa mort à des soirées de radioactivité, la radio où Newell était bénévole. Sa prof et une amie ont dit qu'elle avait l'air traquée et apeurée depuis 2 semaines avant sa mort. Un véhicule avec un aigle sur le capot vu près de la champignonnière à l'époque du crime. Les enquêteurs ont cherché un véhicule américain alors qu'à cette époque, Newell conduisait la voiture de sa maîtresse Marlène D., une Mitsubishi brune avec un aigle sur le capot. Il y a de nombreuses anomalies dans les auditions de témoins. Par exemple, la mère de Christine a été entendue par la police qu'en septembre 1991. Des vêtements montrés à la famille, jeans, anorak, chaussures, en 1984, ne sont plus là et en 1997, ils voient des choses non vues en 1984. Témoignage de Michel B., ex-inspectrice PJ, elle n'a jamais vu 2 chefs sur la même enquête. Or, pour la champignonnière, 2 inspecteurs ont été désignés. Elle n'a jamais cru à la piste des punks qui a été privilégiée, car ils auraient pris les bijoux de Christine et cela n'a pas été le cas. 13 juin 1984, le pédocriminel de Rochette est interné pour des faits de mœurs, viol sur mineur, commis en 82, 83 et 84. Il a plus tard été condamné pour avoir enlevé et tué une fillette, Loubna Benaïssa. Juin 1984, ordonnance de la chambre du conseil du TGI de Bruxelles qui montre que le juge Jean-Claude Van Espen, qui a travaillé sur le dossier du meurtre de Christine Van Hesse, a été l'avocat d'Annie B., la compagne de Newell, lors d'une querelle de ménage. 2 août 1984, la commission de défense sociale de l'annexe psychiatrique de la prise de Forez décide d'une mise à l'essai sur base d'une tutelle sociale et médicale et de remettre Desrochettes en liberté. 13 septembre 1984, arrestation d'un punk pour le meurtre de Christine Van Hesse. 1er mars 1985, arrestation de Marc Dutroux, détention préventive à la prison de Mons pour plusieurs viols et vols qualifiés pendant 1 mois, très exactement. Donc, 2 avril 1985, libération de Dutroux. 24 septembre 1985, on retrouve le corps de Karine Dayert, amie de X1 dans le réseau, dans la fosse septique d'un ancien café près de Gand, le Neptune. On ne sait pas vraiment quand elle a été tuée, probablement depuis plus de 2 ans selon l'autopsie. Et elle avait disparu le 30 août 1982 à l'âge de 15 ans. Selon X1, elle a été maintenue en vie ensuite et était enceinte. Un fragment d'un appareil utilisé pour provoquer des avortements ou faciliter les accouchements ont été retrouvés et d'autres indices montrent qu'elle était probablement enceinte lors de sa mort. Son père a été arrêté pendant 2 mois, soupçonné du meurtre, mais relâché par manque de preuves. La mère de Karine avait dit qu'il était incestueux avec leur fille et X1 a affirmé en 1996 qu'il avait livré sa fille au réseau et qu'il la violait lui aussi. En février 1977, quand Karine avait 12 ans, il a commis des attentats à la pudeur sur ses 2 filles. Il a été jugé en 1978. La mère des 2 filles les avait fait placer en octobre 1977 en raison du comportement de son mari, qui a d'ailleurs fait un séjour en hôpital psychiatrique. En 1990, sa nouvelle compagne a porté plainte contre lui pour viol après l'avoir drogué au Rohypnol. X1 a expliqué que Van der Elst, de même que son souteneur Tony et le frère du bourgmestre de Knokke, Maurice Lippens, étaient présents lors du meurtre. Le dossier est clos en juin 1998. 27 septembre 1985, début de la seconde vague des tueries du Brabant avec l'attaque d'un supermarché de Lez à Braine-l'Alleud, 3 morts. 1er octobre 1985, reprise de l'instruction sur la mort de Christine Van Hees par le juge Jean-Claude Van Espen, alors beau-frère du politicien du CEPIC, un groupe de l'aile droite du parti chrétien dirigé par Van der Boynant. Philippe Deleuze, aux compagnes duquel Newell a participé. 21 octobre 1985, alors qu'un des complices de Dutroux, Bernard Weinstein, est en prison en France, Charles Schulman était à la prison. Il est le beau-frère de Weinstein et dirige le service d'urologie d'un grand hôpital de Bruxelles. Il explique sur un papier en tête de l'hôpital qu'il faut laisser Weinstein sortir car un psychiatre allait le suivre en Belgique. Weinstein a obtenu une libération conditionnelle le 6 novembre 1985 aux 2/3 de sa peine. 9 novembre 1985, dernier fait attribué au tueur du Brabant, l'attaque d'un supermarché de Lez à Alost, 8 morts. 1986, procès du Mirano, une boîte de Bruxelles, pour du trafic de cocaïne après le décès par overdose d'un fils d'un magistrat. La boîte appartenait à Philippe C., patron d'une société immobilière et proche de cette époque de Paul Van den Boynant. La clientèle était plutôt huppée. D'après X2, le baron de bon voisin le fréquentait. Le témoin VM1 dans le dossier du trou bis a expliqué y avoir été prostitué alors qu'il était mineur au début des années 80. Je devais aller chercher des enfants, puis les faire boire ou les droguer, pour les amener ensuite dans la partie privée où l'on abusait d'eux. Lors du procès de 1986, Annie B., la compagne de Newell, a défendu l'un des individus impliqués, Alexis Allewaters, qui avait travaillé quelque temps à son cabinet. Dans une interview, Newell a déclaré qu'il n'a jamais mis les pieds au Mirano, mais qu'il savait ce qu'il s'y passait. Le frère du roi qui était en train de baiser, et ils avaient des photos avec des filles de 14 ans. Selon lui, c'est pour cette raison que seul le trafic de drogue a été jugé et que l'affaire de la prostitution de mineurs a été étouffée. Parmi les visiteurs du Mirano, qui existait encore en novembre 2021, il y avait aussi un des types cités à maintes reprises dans les tueries du Brabant et par des témoins du dossier X, Madani Bouhouch, ce flic d'extrême droite fréquentait aussi le Dolo. Dans les dossiers X, ce que la Belgique ne devrait pas savoir, les auteurs Annemie Bulté, Douglas de Coninck et Marie-Jeanne Van Hiswijk expliquent, je cite, « Pendant le procès du Mirano qui a eu lieu en 1986, il est apparu que le suspect principal, Philippe C., faisait cueillir des petits garçons à la place Fontenas à Bruxelles. On parlait alors de grandes quantités d'images que C. aurait réalisées de ses clients. » Le parquet de Bruxelles est cependant resté aveugle à tout ce qui n'avait aucun rapport direct avec la consommation de cocaïne. Lors de l'audience, la juge Claire de Grise a dit sans sourciller qu'elle n'avait même pas regardé les images saisies, parce que tout le monde m'a assuré qu'il n'y avait rien là-dedans qui puisse choquer même un capucin. Étrange, au cours de ce même procès, l'avocat général Talon a déclaré que Philippe C. avait avoué lors de l'enquête que des enfants faisaient office d'attraction spéciale lors des soirées cocaïne au Mirano. Fin de citation. Enfin, le témoin X2, qui intervient dans le dossier BIS, a aussi parlé du Mirano, où elle a été emmenée au milieu des années 80, et des soirées privées qui se terminaient en partouze avec distribution de cocaïne, auxquelles des mineurs étaient présents. Plutôt entre 12 et 15 ans. Elle explique que parmi les amateurs, des membres de la famille royale étaient présents, mais jamais actifs. L'ex-gendarme Marc Toussaint, qui a travaillé pour la cellule de Neufchâteau, a interrogé le témoin VM1, écrit dans son livre « Tous manipulés » que le dénommé Philippe C., qui avait créé en 1985 la SA Parc Savoy, avec de grandes pointures du secteur immobilier et de l'entourage direct de l'ancien Premier ministre Paul Vauden Boynant, il est apparu que cette société, qui avait pour but d'exploiter des bars et des restaurants et d'organiser des réunions culturelles et sociales, était liée à un très influent cercle des nations. Le club privé comptait parmi ses 81 membres fondateurs de nombreux nobles, hommes d'affaires, banquiers, diplomates et politiciens dont certains noms sont cités par les témoins X. Et il rappelle ses connexions avec Newell et sa compagne Annie B. via un des condamnés au procès. Il a pris 5 ans. Alexis Allowaters. En 1993, Newell lui a prêté une Porsche qui a disparu de la circulation. Et déjà en 1980, quand il était tout jeune et à ses premières condamnations, c'est Annie Bouty qui vole à son secours. 41 vient sa société Cadreco, elle tente d'accélérer sa libération conditionnelle et lui fournit un avocat, Didier Dekevy. On retrouve alors Alexis Allowaters comme gérant temporaire de la station-service de Casper Flair à Anté, où Michel Lelièvre a également travaillé. 3 février 1986, nouvelle arrestation de Dutroux. De nature criminelle, les faits qu'on lui reproche sont cependant correctionnalisés contre l'avis du procureur du roi de Charleroi, Monsieur Marchandise, qui considère Dutroux comme un délinquant sexuel grave ayant une personnalité reconnue responsable par l'expert qui se dit invincible et n'a jamais exprimé le moindre remords. 27 avril 1987. Coup de fil anonyme à la police d'Etterbeek au sujet du Dolo, un bar pas si loin de chez Newell où se retrouvent de nombreux pédocriminels, mais aussi des flics et des magistrats, et où ont lieu des partouzes, dont certaines avec des enfants, ainsi que du meurtre de la champignonnière. Aucune enquête n'est pourtant lancée sur le Dolo, tenu par le couple Michel Forgeau-Dolores Barra. 24 juin 1988, le tribunal correctionnel de Charleroi condamne Dutroux pour les faits commis jusqu'en 85, viol et séquestration de 5 mineurs, vol, port d'armes prohibées, etc. L'adjudant Dutuin, qui a participé aux enquêtes concernant ces faits, observera plus tard des similitudes avec des faits commis en novembre 95, viol et tentative de meurtre d'une jeune fille, Caroline, à Aubex. 1988, Newell entre en même temps que Forgeau et sa compagne Marlène D., rencontrée en 1982 au club échangiste Les Atrébates, à la confrérie des maîtres brasseurs et distilleurs de Wallonie, dont il est devenu président quelques années plus tard. 14 janvier 1989, enlèvement de Paul Vauden Boynant, ancien Premier ministre et ministre de la Défense par Patrick Hamers et ses complices. Mais l'opération est revendiquée par un obscur groupe d'extrême gauche dont personne n'entendra plus jamais parler, certainement créé pour l'occasion. Il a été libéré le 12 février devant la gare de Tournai. Hamers avait comme avocat Jean-Paul Dumont, proche de Newell et cité par X1 et X2 comme étant un membre actif du réseau. Dumont a fait de la politique au PCS. PCC, pardon. le parti de Vandenbeunot et fut l'avocat de Madani Bouhouch, un flic fasciste cité à de nombreuses reprises dans l'affaire des tueries du Brabant et aussi comme un des hommes de main du réseau. Quant à Hammers, il était aussi membre du réseau comme homme de main et consommateur de mineurs, d'après le témoignage d'Anke Lucas. Dumont fréquentait Rainmakers depuis le milieu des années 70. Dans une audition du 1er novembre 1996, Rainmakers a expliqué qu'il avait accompagné Dumont à plusieurs adresses dans les régions de Bruxelles et Namur au début des années 90 en vue d'y chercher des enfants, à savoir des garçons en bas âge. Selon Rainmakers, Dumont était en lien avec le commissaire de Bruxelles Georges Marnette et se vantait d'avoir de nombreux contacts dans le milieu judiciaire, tant au niveau de certains services de police et plus précisément avec la police judiciaire de Bruxelles qu'avec certains hauts magistrats et hommes politiques. Il m'a raconté qu'il avait des contacts permanents avec le commissaire Marnette de la PJ qu'il connaissait d'ailleurs personnellement. Parmi ses contacts, il y avait la bande citée par le témoin Nathalie W. Vandenbeunot, Alan van der Beest, devenu ministre PS de la région Wallonne et dont le chauffeur Richard Taxquet a été condamné pour l'assassinat du ministre André Kolz en 1991. Lui a préféré se suicider en 2002. Il y avait aussi d'autres noms, en fait un véritable carnet d'adresses des milieux politiques de l'époque, autant chez le PSC que chez les socialistes. Un certain nombre de ces politiques ont d'ailleurs été impliqués dans des affaires politico-financières.